j'ai une transition, puisqu'on va parler des punks et du rap.
Je m'attends au
le
pire.
Le punk, bon, vous, vous êtes né avec Kids United, Frédéric Seitz, vous êtes jeune. Mais à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait les Stinky Toys. Et je suis sûr que les auditeurs vont pouvoir traduire cela. Et on va parler de cela, du punk français, du punk également anglais, parce qu'il était quand même principalement anglais. Et puisque vous êtes sur France Culture, eh bien, on a trouvé deux universitaires qui travaillent sur le punk dans un programme de recherche qui s'appelle PIND, Punk is not dead, Frédéric. Je vous les présente. Solveig Serre, bonjour, vous êtes historienne, bonjour, musicologue et chercheuse au CNRS. Et à côté de vous, eh bien, nous avons Luc Robben qui dirige également ce projet de recherche. Vous allez nous expliquer ce qui a changé depuis 1976, depuis le début du punk en France. Et Pierre Héville, que nous retrouvons, qui lui est plutôt spécialiste du rap et qui a notamment publié Les mots et le reste. Et on va tout de suite écouter du punk français dont je m'étonnais de la date 2006, mais 2006 ça doit être la date du disque, parce que la chanson est bien plus ancienne, c'est La Souris Déglinguée, le parti de la jeunesse. Punk sur l'antenne de France Culture avec une évolution notable, mais probablement aussi quelque chose qui demeure constant, c'est la manière dont le punk était jadis une musique extrêmement choquante. Solveig Serre, peut-être rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent en quoi le punk a été une révolution à la fois musicale, peut-être aussi esthétique, politique.
Alors c'est vrai que c'est tout d'abord une révolution musicale, c'est un mouvement qui va s'ériger contre la contre-culture des aînés, la musique progressive, la musique des Beatles. Il y a une accroche célèbre d'un groupe qui s'appelle Starshooter, dont le chanteur est Kent aujourd'hui, qui dit « il y en a marre des Beatles et de leur musique de merde ». Donc voilà, le
pourquoi ils disaient ça ?
Ben parce que les Beatles, ça représente la grosse industrie, les majors, tout ce que les punks vont conspuer, et puis la musique progressive, c'est la musique savante. Joué et composé par des gens qui sont bien formés, qui savent faire, et le punk revendique, on prend une guitare, on joue trois accords et on fait un morceau comme ça tout de suite maintenant. Voilà cette espèce d'urgence de faire qui contraste avec tout ce qu'était l'évolution de la musique depuis 15 ans.
Avec également, donc vous l'avez dit, des solos, avec des chansons très longues, alors que les punks vont faire des chansons très courtes, avec également... J'allais dire des propos qui étaient des propos sinon consensuels, du moins en tout cas des propos prônant l'amour, prônant toutes sortes de choses extrêmement gentilles et romantiques. Le punk va prendre le contre-pied de tout ça, Luc Robben.
Oui, tout à fait. Le punk, c'est le mot d'ordre, c'est subversion, hein, détournement, provocation, et on est dans la déconstruction de tout ce qui fait le monde ancien. Donc, on parlait de rupture, c'est vraiment une rupture par rapport à ce qui est établi, à l'establishment. Alors, en Angleterre, contre les piliers, hein, la reine, le pouvoir, la religion, mais aussi les rapports sociaux de sexe, l'identité même. Beaucoup de punks vont se positionner par rapport à la question de savoir ce qu'est un homme, une femme, etc. Donc, la question de l'amour, évidemment, qui est détricoté, interrogé, voilà. Donc cette position est très importante à comprendre dès le départ. La question de voilà, subvertir le monde ancien et voir ce qui peut advenir. Mais je rappelle quand même que le slogan du moment 77, c'est No Future, donc espèce de fuite en avant sur cette absence de futur et cette espèce de discussion autour de ce que peut être la désespérance et du monde dans lequel on se débat.
Pierre Héville, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le punk hier, le rap aujourd'hui ?
Alors déjà, il y a des connexions très directes entre le punk dans son âge d'or et les débuts du rap. Clash, qui est le groupe étendard du punk politique en Angleterre, est le groupe qui a amené le rap en Europe. Ils étaient à New York pour une série de concerts dans les années au début des années 80, et ils vont faire venir des graffeurs, des rappeurs, etc. Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, va lui aussi être l'un des premiers producteurs producteurs de rap en Europe. Et il y a des connexions parce que c'est des musiques qui veulent exister par la nouveauté et par la provocation. Et donc ils se reconnaissent. C'est des familles qui se reconnaissent, qui jouent pas la même musique, mais qui ont le même esprit.
Justement, on va écouter White Riot, la chanson des Clash, donc Émeute Blanche, une chanson de 1977. Et la première fois qu'on a entendu ça, eh ben, on était à la fois troublé et tout fou quand même.
White Riot, I wanna riot, White Riot, a riot on my own. White Riot.
Alors effectivement, les Clash ont consacré plusieurs chansons à ce thème de l'émeute blanche. Ça vient après les émeutes de Brixton, un quartier donc de Londres, avec beaucoup de noirs et des émeutes à cette époque, et des propos qui auraient pu être équivoques si on s'en tenait au titre de la chanson Émeute Blanche, mais qui en réalité invitaient les jeunes blancs à se rebeller comme les jeunes noirs, avec donc une musique assez violente.
Oui, tout à fait. Sachant que ce que ça signifie aussi, c'est que le punk, c'est une musique de blanc. Et ça, c'est une différence, je pense, fondamentale avec le rap. Une musique de blanc et une musique d'homme, en fait. Donc, dès l'origine, c'est planté comme ça. Les femmes sont extrêmement rares. Et alors, en Angleterre, c'est un peu plus hybridé. Il y a du ska punk, il y a du reggae, parce que là, voilà, pour des raisons de population, etc. Mais par exemple, en France, c'est quelque chose, ça reste vraiment un mouvement essentiellement blanc.
Avec quand même quelques femmes.
Très peu. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et quand il y a des femmes...
Suxy and the Banshees, Blondie, qu'on pouvait considérer comme étant du punk, qui était... Alors, elles étaient peut-être numériquement minoritaires, mais elles avaient eu une influence importante.
Oui, il y a des femmes. Alors, comme dit Solveig, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est toujours cela qu'on donne en exemple. Mais globalement, quantitativement, ça reste un mouvement de mecs. Si on regarde en France, moi, je donne toujours cet exemple, la compilation K.O. en France, qui est sortie au milieu des années 80. Il y a 120 musiciens à peu près pris en photo. Il n'y a pas une fille.
Je sais pas, il y avait Edith Nylon.
Oui.
Ça en fait
bien
une.
Sûr, bien sûr, oui.
Alors, elle n'était pas dans la compilation, effectivement, mais bon, je suis d'accord avec vous, c'était assez minoritaire. Ce qui, en revanche, n'était pas minoritaire dans le punk, c'était la volonté, donc, effectivement, de subvertir un certain nombre de codes. Code de l'industrie musicale, vous avez dit tout à l'heure que le punk s'adressait contre les majors chez les Clash, dans d'autres groupes. Il y avait la volonté de faire des disques moins chers, de proposer 3 disques pour le prix d'un. Bref, tout un système où il s'agissait, Solveig Sæther, d'aller à l'encontre d'une industrie musicale.
Oui, alors là-dessus, en France, ça ne se passe pas tout à fait comme en Angleterre. En Angleterre, le but, c'était de rentrer dans le système pour le corrompre, pour manger la pomme, si on peut dire. Alors qu'en France, il y a eu plutôt le désir donc, de s'extraire des majors et d'avoir un parcours parallèle. Et c'est tout ce qui va irriguer derrière la scène alternative avec autoproduite, etc. Les attitudes anglaises et françaises sont assez différentes là-dessus. Mais effectivement, plus tard, le punk va devenir, quelques années plus tard, une fois qu'il est mort, il va pouvoir se politiser et là on va arriver
sur autre chose. Il est mort quand ?
Pour les puristes, en 78, quand les Sex Pistols se sont dispersés.
Et pour les autres ?
Ben pour les autres, il n'est pas mort, puisque notre projet, c'est sur 40 ans de punk, on va dire globalement. Et on considère que finalement, comme on parle toujours de punk et que les punks sont toujours là, c'est un mouvement dont il faut questionner justement les formes de réinvention au fil du temps. Et on doit pouvoir considérer qu'il y a eu plusieurs vagues. Je pense que dans le rap, c'est la même chose. Globalement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler la vague 77, le canal historique du punk, avec en France des groupes comme Metal Urbain, Stinky Toys, Star Shooter, Strychnine, des groupes comme ça. Et puis il y a eu une deuxième vague au tournant des années 80, beaucoup plus politisée, mais dans le sens, on va dire, de politique politicienne, avec un message engagé. On pense tout de suite à des groupes comme Béruré Noir ou Caméra Silence à Bordeaux. Et puis Solveig parlait de... sont aussi des groupes qui sont intégrés à quelque chose de plus vaste, la scène alternative. Et au tournant des années 90, on va rentrer sur autre chose, une troisième vague beaucoup plus élastique, beaucoup plus large, dont on peut dire qu'elle vient jusqu'à nous. Alors en plus, faut considérer que il y a une superposition de toutes ces couches. Hein. Il n'y a pas comme ça une fin de chaque vague. On a aujourd'hui beaucoup de groupes qui existent toujours de la première vague ou qui se sont reformés. Il y a qu'à regarder les Olivenstein par exemple de Rouen, qui sont toujours là. Hein, fier de ne rien faire, donc ça c'était du slogan. Hein.
Est-ce qu'on peut considérer que le grunge a été, puisque on pourrait dire que Nirvana a été le dernier groupe majoritaire écouté par des publics très différents, et on pourrait peut-être dire, mais ça je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça Luc Robin Solvexer, on pourrait dire que le grunge a été peut-être le dernier avatar important du punk.
Bah, ça se discute beaucoup musicalement, même en termes de filiation, parce que nous on considère que, alors évidemment on va retrouver des choses, une espèce de message de désespérance, hein, poussé à l'extrême, mais
vous pensez au suicide de Kurt Cobain.
Exactement, hein, dans le cas de Kurt Cobain. Donc, en même temps, quand on regarde bien, c'est aussi un mouvement qui est né de quelque chose qui a beaucoup à voir avec le mouvement hippie. Je rappelle que le père du grunge c'est Neil Young, sa chemise à carreaux, et que derrière, il y a tout un tas de groupes, Hard Ones, etc., qui sont venus durcir un son. Mais la question se pose vraiment, hein, de savoir si c'est un sous-genre articulé au punk ou si c'est autre chose.
Pierre Evil.
Il y avait une vidéo qui est sortie d'une tournée avec Sonic Youth, Nirvana, etc., qui était intitulée 1991, l'année où le punk a explosé. Donc il y a une revendication de la part de ces musiciens alternatifs américains de dire on va faire exister dans le système une musique qui était jusqu'alors complètement underground aux États-Unis, contrairement à l'Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la culture punk reste aujourd'hui très vivace. Il y a des tas de groupes qui font du pop-punk, donc des chansons à la façon des Beatles, en instrumentation punk, avec guitare saturée, etc. Je me tourne vers... Moi, j'écoute pas ça, mais...
Dead Kennedys sont encore présents.
Ils existent toujours, mais ils sont en fait. Jello Biafra, le chanteur, a fait son groupe de son côté. Il est parti. C'était quand même la figure emblématique, très engagé politiquement.
Hein, il a souhaité plusieurs fois se présenter en politique.
Il s'est présenté à la mairie de San Francisco. Il était membre du Green Party. Donc il est exactement la figure qui montre ce qu'est le punk dans les années 80. C'est le moment où le punk se politise, mais en politique, hein, non plus seulement par rapport à la contestation de l'ordre social. Il y a un vrai engagement politique.
Dans les groupes importants des années 90-2000, il y a un groupe comme Green Day, par exemple. Green Day, c'est la déclinaison dans l'industrie culturelle américaine des Clash. Les chanteurs sont des chanteurs américains, mais ils prennent même l'accent cockney pour sonner comme les Clash, et ils vendent des tombereaux de disques, ils vont patronner des comédies musicales sur Broadway, etc. C'est devenu une case du grand échiquier des musiques populaires américaines, le punk.
Mais alors, quand même, vous dites, Luc Robin, que l'inspiration du grunge, ça n'est pas uniquement le punk. Au niveau du son, il y a quand même des choses qui ressemblent fort, non ?
Ah oui, il suffit de regarder les guitares, le grain des guitares, il y a une guitare très 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 distordue, et puis la manière d'accélérer certains tempos, bien évidemment, hein, donc mais je dis la question reste posée. Hein.
Et alors, ce qui est intéressant en fait, si on prend donc cette portion d'histoire entre le punk et le rap, c'est qu'on voit finalement qu'il y a deux bornes en quelque sorte d'une culture qui est à la fois musicale, jeune et politique, alors qu'aujourd'hui celle-ci tend, mais peut-être que vous trouverez d'autres contre-exemples, en dehors du rap aujourd'hui et d'un tout petit nombre de groupes, je pense à des groupes d'extrême droite, il y a très peu de musique qui est politisée pour les jeunes.
Effectivement, ça se discute. Je pense que sur la question du genre, les artistes féminines font une musique hyper politique. Des artistes comme Fever Ray, comme Janelle Monáe, qui revendiquent soit leur bisexualité ou leur homosexualité, soit simplement le simple fait d'être une fille et de faire de la musique populaire. Ce qu'il faut savoir, il y a eu un petit sondage qui a été fait chez les gens qui écrivent les chansons du hit parade aux États-Unis. Il y a 5 ou 10% de filles. Et les filles qui font de la chanson, des musiques aujourd'hui, elles n'acceptent plus de se taire. Elles veulent exister. Et ça, c'est politique.
Oui, il y a exactement la même chose dans le punk avec les Riot Girls, qui sont extrêmement engagées dans leurs textes, dans leur comportement sur scène, etc. Mais qui, une fois de plus, invitent à rester lucides quand, en gros, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est quelque chose d'extrêmement minoritaire.
Alors, justement, on a réfléchi à la manière dont le punk pouvait faire écho à la dimension extrêmement misogyne du rap, puisqu'on a souvent accusé les rappeurs dans le texte de leurs chansons, mais aussi dans les clips, de présenter une image de la femme qui était une image extrêmement misogyne. Et j'ai trouvé cet exemple qui nous ramène en 1977, les Stranglers, Bring On The New Bides. I want to love you like your dad and be your superman. J'avais demandé à mon prof d'anglais de traduire les paroles de Bring On The New Bides et elle s'est arrêtée assez rapidement lorsqu'elle a entendu ces paroles. Les Stranglers s'étaient spécialisés dans des mises en scène extrêmement misogynes. C'est la preuve que, à cet égard, pas grand-chose n'a été inventé. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord, Solveig Serre.
Non, je pense que dans le cas du punk, c'est pas tant une misogynie, parce que quand on regarde le corpus en France, le mot le plus fréquent dans le corpus, c'est salope, par exemple. C'est pas tant une misogynie qu'une dénonciation d'un état de fait de la société, qui est donc avec un ordre patriarcal dominant. Et donc le fait de s'intéresser à ça, ça peut donner l'impression que c'est misogyne. C'est exactement la même histoire que les croix gammées. Les punks portent des croix gammées pas parce qu'ils sont nazis, mais justement pour dénoncer ce genre de choses. Donc il faut faire attention à, vis-à-vis d'un discours qui peut paraître misogyne, mais qui en fait est une défense de ce que ça ne doit pas être.
Bon, ça c'est toujours l'ambiguïté du droit de citation. Est-ce que l'on cite pour dénoncer ou est-ce que l'on cite pour reprendre à son compte? Votre point de vue, Pierre Héville?
Sur
le fait que justement la provocation, alors la croix gammée, c'est par exemple la croix gammée de Sid Vicious dans le film que les Sex Pistols ont tourné, The Great Rock and Roll Swindle, la grande escroquerie du rock and roll, qui a été tourné notamment rue des Rosiers, autrement dit dans le quartier juif de Paris, et c'est une scène qui a été tournée avec des gens qui n'étaient pas des figurants et qui évidemment, lorsqu'ils ont découvert un jeune homme Sid Vicious avec un t-shirt à croix gammée, ont eu les réactions que vous imaginez.
Alors, on est vraiment là dans le croisement entre l'industrie culturelle, avec ce qu'elle peut avoir d'exploitation, et s'agissant de la musique populaire, d'exploitation assez bas de plafond. Enfin, on titille les plus bas instincts parce que c'est drôle, parce que le public adolescent adore ça. Et d'un autre côté, des artistes qui essayent de jouer sur les deux tableaux, d'être provocants tout en n'étant pas vraiment sérieux. Comme ça a été rappelé, la croix gammée, c'était plus un symbole dont on savait qu'il allait exciter les hippies, les gauchistes, ceux contre qui on voulait se positionner dans l'univers de la culture populaire. Et voilà, c'est des choses aussi qui sont pas très sérieuses. Et les gens le public qui comprend ça, n'y accorde pas beaucoup d'importance. Les autres, ceux qui voient ça sérieusement, parce que c'est sérieux, une croix gammée, sont horriblement choqués. Et c'est ça qui plaît aux artistes et à leur public.
Luc Robben, vous en pensez quoi?
Oh, je suis tout à fait d'accord. La posture entre rappeur et punk à ce niveau-là me semble avoir des correspondances assez évidentes. La question des croix nazies a été une ambiguïté dès le départ par rapport au punk, mais qui en jouait beaucoup. Et puis c'était une manière de tordre aussi cette violence de la société et des anciens et de la retourner, de la retourner contre ce monde à l'époque en 77 en tout cas, qu'on ne voulait pas ou qu'on voulait fuir à tout prix.
Et aussi peut-être, et ça c'est une question évidemment plus polémique, l'islam par exemple dans le discours de Médine joue-t-il le rôle que pouvait avoir un certain nombre d'autres poussoirs? C'est-à-dire quand on joue avec les codes du djihad par exemple, est-ce que l'on reprend finalement une forme actuelle de ce qu'incarnait jadis le nazisme dans l'imaginaire, je veux dire?
Absolument. Là, il y a une correspondance évidente. quand Medine fait ça, il sait ce qu'il fait et il le fait dans un cadre qui n'est pas le cadre d'un parti politique. Quand il fait cette pochette en 2005, Djihad, le vrai combat est intérieur, il va à la fois revendiquer une identité islamique et en même temps provoquer ceux qui sont gênés par cette identité, et il le fait très consciemment dans une posture punk, en fait, clairement punk.
Oui. Il y avait aussi un discours politique, infra-politique, qui, rétrospectivement, paraît quand même assez sommaire, assez brutal. On va écouter « God Save the Queen » des Sex Pistols. Il y avait quand même une énergie incroyable dans ce groupe qui contrastait quand même avec une intelligence politique assez remarquable aussi, Luc Robben.
Ah oui, tout à fait. Ben, il suffit d'écouter quelques accords. Ça sonne. Hein. C'est vraiment un album qui a encore un son extrêmement actuel, très moderne.
C'est vrai.
Ça fait pas du tout daté. Donc ça sonne bien. Et puis la manière de poser la voix, là on est au cœur du punk. La manière de poser la voix et puis bien sûr le texte. Ce que je disais tout à l'heure, on est dans cette espèce de subversion, hein, d'opposition à l'ordre établi. Hein, God save the queen, fascist regime. On y est, on y va, on rentre dedans. Et il faut se souvenir de la mise en scène en plus qui a été établie autour de cet album. Le concert sur la Tamise, l'arrestation avec les Bobbies, etc. Bon, qui a été extrêmement violente. Hein.
Alors c'était peut-être violent, mais c'était aussi dans un but publicitaire parfaitement réfléchi chez Malcolm McLaren, qui était le manager du groupe.
Bah, tout à fait, de toute façon, on est là avec les punks, c'est toujours l'ambiguïté, il y a une mise en scène, on pourrait presque dire, en étant très situationniste, on est dans la société du spectacle, hein, donc on retrouve cette dimension mise en scène qui est extrêmement importante, et on peut contester, mais pour contester, il faut savoir communiquer d'une certaine manière, c'est un petit peu l'ambiguïté du punk. De toute façon, le punk est un objet extrêmement paradoxal à bien des égards.
Alors la différence entre les punks et les rappeurs, c'est que les punks ne sont pas devenus riches, Pierre Héville.
Il y en a quelques-uns qui sont devenus...
Qui ? Donnez-moi des noms.
Sting.
Oui, mais alors est-ce qu'on peut encore considérer que c'est un peu...
Vous avez raison.
Non, je veux dire, Joe Strummer est mort dans la dèche, Mick Jones, donc deux membres du Clash. Bon, Sid Vicious est mort d'une overdose, ça a réglé la question. Les Stranglers sont passés récemment à Paris, ils sont... Bon, ils vivotent, non, ils font mieux que vivoter.
Les Stranglers ont toujours très très bien géré leur argent, et c'est ce que leur reprochait la scène punk. Ils étaient à part, hein, sur ces... Moi je considère que c'était vraiment un groupe punk, mais ils étaient à part par rapport à ça.
Mais la strate supplémentaire, c'est vrai que les rappeurs, ils utilisent le capitalisme et ils l'assument. Ce que les punks les premiers punks ne faisaient pas. Le groupe dont je parlais tout à l'heure, Green Day, a vendu des millions de disques. Donc ils sont millionnaires eux aussi. Mais le punk, il a fait de l'argent un sujet de chanson. Il a intégré l'argent dans son univers. Avec cette insolence punk, cette volonté de jouer sur les deux tableaux, et quelqu'un comme Jay-Z, par exemple, incarne à merveille ce paradoxe.
Et puis alors, pour les groupes punk français, alors là, s'il y en a qui ont dépassé des gains à trois chiffres, il va falloir donner leur nom.
Il y a eu quelques bonnes ventes. Hein. On pense à Gogol Premier et La Horde, qui fait un carton, plus de 250 000 albums.
Ils étaient joués sur Énergie.
On pense aux Bérus, qui ont finalement... Mais alors, je parlais d'un objet paradoxal, c'est vraiment ça le problème du punk en France et ailleurs, c'est que on ne sait pas gérer la réussite, puisque... Il faut rester underground, mais en même temps, un underground qui va réussir, qui va passer sous la lumière, éventuellement flirter avec le mainstream. Et là, c'est pas possible, hein, parce que on est aussitôt rappelé à l'ordre, et ça pose un problème identitaire, idéologique, fondamental au punk, en permanence.
Solvexer.
C'est une dialectique très douloureuse. Réussir, c'est être un traître au système, en fait. Donc il y a vraiment... Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence avec le rap. Un punk qui a réussi, c'est un punk suspect.
Effectivement, alors qu'un rappeur qui a réussi, c'est un bon rappeur.
jusqu'au moment où il arrête d'être pertinent dans l'époque. Et il y a beaucoup de rappeurs à qui ça arrive, qui sont écrasés par le succès, qui savent pas se renouveler. Bah, Jay-Z, par exemple, je pense que c'est un artiste qui a énormément de succès, mais qui artistiquement est en bout de course. Il a été dépassé par sa femme et le rap aujourd'hui ne se fait plus dans les disques de Jay-Z. Il se fait chez les gamins d'Atlanta.
Bon, mais ça voilà, aussi, c'est le fonctionnement même de la musique pour les jeunes. C'est qu'à un moment, vous êtes vieux.
Voilà, et il faut savoir l'accepter. Et il y a cette construction paradoxale aussi que les rappeurs doivent gérer. C'est le vieux rappeur.
Un mot de conclusion, Luc Robert.
Oui, ben, les vieux punks, c'est pareil. Hein, faut gérer. C'est une vraie question, d'ailleurs, de notre projet de recherche, parce qu'on s'intéresse à qu'est-ce que c'est vieillir quand on est punk, quand on survit au punk et quand on...
Les vampas sont encore présents.
Ils sont encore présents et très présents et bien en forme. Didier Vampas est très très en forme.
Donc c'est ce qui fait au moins un groupe punk voilà. De la scène punk.
Mais scène alternative, les Vampas. On peut en discuter, mais on dirait que c'est plutôt un groupe issu, enfin de la scène.
Comment faites-vous la distinction?
C'est compliqué en deux minutes qui restent, mais ça se fait par exemple au niveau des textes, et puis de la période. On est dans une période un peu plus tardive.
Oui, et la scène alternative a intégré des courants qui sont pas nécessairement le punk. Hein. On trouve tout un tas, y compris des courants de chansons engagées, etc., de psychobilly, etc. Il suffit de regarder quels groupes sont signés sur les labels indépendants comme Bondage, par exemple, et on a tout de suite une idée de ce qu'était la scène alternative.
Scène suivante que je vais vous présenter, Luc Robben, Solvexer, qui avait aujourd'hui en charge le projet Pind, Punk is Not Dead. Merci également à Pierre Héville, Les mots et le reste, c'est l'un des livres que vous avez consacré au rap.